Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 18h.
Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
La 7e étape du Tour de France. Aujourd'hui, on s'approche petit à petit de l'arrivée du juge de paix de cette 7e étape. La planche et la super planche des belles filles et ses kilomètres d'ascension particulièrement difficiles, notamment le dernier kilomètre dont on vous a parlé tout à l'heure. On est à moins de 40 kilomètres désormais de l'arrivée de cette 7e étape. C'est allé une nouvelle fois très vite, arrivé aux alentours de 17h10. On fait un nouveau point sur la situation de course. C'est le top course et c'est avec Pierre-Yves.
La barre des 40 km est passée, 39 encore à parcourir pour les hommes de tête qui possèdent 2 minutes 44 d'avance sur le peloton emmené par les équipiers du maillot jaune Tadej Pogacar sur ces dernières pentes des Vosges, puisqu'on va rentrer dans le département de la Haute-Saône dans quelques instants et en se diriger vers la super planche des belles filles. Dans ce groupe de tête, Simon Geschke vient de passer en tête pour la 2e fois d'ailleurs aujourd'hui au col des Croix. Il est accompagné de Dylan Teuns, de Lennart Kamna, de Maximilian Charman, de Luc Durbridge, de Cyril Barthes, le français de l'équipe BNB KTM, et de Imanol Erviti de l'équipe Movistar. 38 km encore à parcourir, 2 minutes 40 d'avance pour les échappés, ça risque d'être compliqué.
Et les hélicoptères de la course qui survolent la course se rapprochent petit à petit de nous. Christophe Moreau, on n'est pas très loin, le peloton se trouve très près maintenant du pied de la planche des belles filles.
Alors complètement là, on va glisser toute la vallée de Ternuet, Servance, Bellonchamp, on va tourner à gauche et on va monter, escalader l'avant-dernière difficulté, c'est l'achevêtré que les puristes franc-comtois connaissent très très bien, avant de plonger sur plancher les mines et attaquer les 7 km d'enfer.
Très bien, nous allons justement retourner dans la vallée, retrouver notre reporter Julien Richard qui a des problèmes de liaison téléphonique et qui donc a trouvé une solution, une nouvelle solution pour nous parler du fait du jour et notamment d'un garçon qui suscite évidemment l'admiration de tous ici, un certain Thibaut Pinot avec tous ses supporters qui sont dans la montée. Salut Julien.
Salut Christophe, bonjour à toutes et à tous.
Oui, alors donc t'es bonne chez les gens. T'es chez les gens, oui. Tu t'es installé chez les gens, t'as peur de rien, toi.
Ouais, je remercie Louis et Lucie qui m'ont accueilli. Ils sont au bord de la route sur le passage de la course. Voilà, donc dans ma musette, j'ai une petite part de gâteau au chocolat, une tranche de melon, un petit café.
Oh, et de quoi vous parlez? Tu ramènes pour nous aussi. Hein.
Non, là, il n'y a pas moyen. Je garde.
Très bien. Alors, donc, tu vas nous parler de Thibaut Pinot dans ta musette. Alors, tu es venu avec ta musette sans ton accordéon aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça.
Ouais, c'est pas grave.
Non, voilà, il est là, l'accordéon de Julien Richard. Il ne se déplace pas sans son accordéon. Julien.
Oui, c'est vrai que on va entendre cette ambiance et cette même scène tous les matins devant le bus de la Groupama FDJ avec des dizaines de supporters qui attendent donc bien que leur idole Thibaut Pinot sorte. Et je sais pas si on entend l'ambiance justement. Allez Thibaut. Et à Lille, justement, cette semaine, on a trouvé Yves, la quarantaine, maillot Groupama FDJ sur le dos, pancarte en carton avec écrit Pinot Forever. Et vous l'entendez crier donc devant le bus. Yves, il a posé, figurez-vous, je sais pas si on peut dire comme ça. Il s'est mis en tout cas en arrêt maladie pour venir voir son idole.
Ce qu'il a de spécial, c'est que c'est un mec super humain. C'est un mec qui procure des émotions énormes, du plaisir. Il attaque. Des fois, il perd et il pleure. Et le lendemain, il va tout arracher pour gagner. Il a un truc en plus. Voilà, ce type-là, on se dit, c'est pas le Superman de tous les jours, et qu'il gagne, qu'il perde, moi je suis content de le voir, et ce petit truc là.
Voilà, il y a un peu ce côté figure romantique dans la popularité de Thibaut Pinot, ses coups d'éclat et surtout peut-être ces images déchirantes du Tour 2019 où à 3 jours de l'arrivée il doit abandonner sur blessure. Alors on a bien compris qu'à 32 ans il ne sera jamais le successeur de Bernard Hinault, mais l'amour du public est intact, voire encore plus intense, comme peut le constater par exemple Marc Madiot, son manager à la Groupama FDJ.
Le public l'aime parce qu'il a l'image du public, hein, il a des moments difficiles, des moments de joie, donc il colle assez bien à ce que peuvent ressentir les gens. Il est assez cabossé quand même, hein, il a pris des cartons, donc les gens se retrouvent aussi là-dedans, quoi, dans ses difficultés, mais aussi dans ses renaissances, dans ses victoires. C'est jamais anodin, quoi. Il est à chez Cash, il exprime largement et voire même trop souvent ses états d'âme et ses sensations, donc il n'y a pas d'angle mort, quoi. Tout est open, c'est force et faiblesse en même temps.
Ouais, premier témoin aussi de cette popularité, vous allez entendre ses coéquipiers.
Allez Thibaut, c'est ton année, ça a été un peu la blague là. Moi-même je le crie souvent dans le peloton pour le faire chier.
Ce que vous entendez, c'est le Canadien Antoine Duchesne qui fait chambre avec Thibaut Pinot sur ce Tour de France. Antoine Duchesne,
c'est vrai, c'est un coureur qui est aussi haut qu'aussi bas, c'est ça, je pense que les gens aiment voir, parce que je pense que tu peux te reconnaître à travers ces montagnes russes de coups de force et d'émotion. Ben oui, c'est toujours drôle parce que tu sais, toi tu le vois que c'est un petit mec comme les autres, puis t'as du monde à côté qui sont fans. Moi c'est drôle parce que vu que j'ai une barbe, il est souvent à côté de moi, je sais pas. Peut-être un peu le même allure. Moi, je me fais crier « Allez, Thibaut, pour moi, Thibaut, il est dernier du peloton, puis j'entends « Allez, Thibaut » toute la journée quand moi, je passe. C'est toujours un peu drôle, moi, à travers. Moi, j'ai jamais d'encouragement. C'est que je prends mes encouragements à travers Thibaut au long des journées. Puis ça, c'est cool. Allez, allez, Thibaut, allez, bravo, bravo,
Thibaut. Voilà, et Thibaut Pinot, évidemment, va être célébré largement aujourd'hui, hein, par ses fans sur sa planche des belles filles. Des inscriptions partout sur la route, et puis vous verrez très certainement au sommet une banderole de 6 mètres sur 3 confectionnée par le CUP, le collectif Ultra Pinot, un compte Twitter créé par des fans, référence évidemment au collectif Ultra Paris. Vous savez que Thibaut Pinot est un fan du PSG, il sera largement encouragé cet après-midi.
C'est quand même incroyable d'être fan du Paris Saint-Germain quand on est en Haute-Saône quand même, Christophe Moreau, non? C'est ouais, dingue ça.
Sochaux est tellement tombé que forcément on se rattrape sur des autres clubs en tout cas plus renommés, et Paris, ben, on fait partie, hein, n'est-ce pas?
Ouais. Faut quand même faire attention à ces supporters, ce sont les ultras.
Oui, les ultras en vélo, c'est pas les mêmes qu'au foot, Cyril, hein. Ils sont beaucoup plus sympas quand même, beaucoup moins vindicatifs.
Ouais, mais on les appelle ultras quand même.
Mais c'est incroyable quand même cette popularité. Mais je pense qu'elle est un peu symptomatique de l'état d'esprit des Français. Pinot, c'est le champion qu'on aime bien aimer parce que il a connu des hauts, il a connu des bas. Il dit ce qu'il pense. Voilà, c'est pas le champion qui gagne tout le temps. Je suis sûr qu'un Pogacar serait moins populaire en France qu'un Pinot. Vous êtes pas d'accord avec ça?
Populaire, je sais pas, moins aimé certainement. Regardez Christopher Froome, hein, quand il gagnait tout le monde le détestait. Depuis qu'il a sa chute, qu'il gagne moins, voilà, il retrouve un petit peu de popularité par exemple.
Regardez Anquetil qui gagnait tout, il était beaucoup moins populaire que Poulidor à l'époque. C'est aussi,
hein. Oui, mais là c'est plus compliqué, hein.
Oui, alors là ils étaient tous les deux français en plus.
Ouais, voilà, déjà d'une part, et puis d'autre part Anquetil ne gagnait pas tout, gagnait beaucoup de Tour de France, de Tour d'Italie, quelques classiques, pratiquement tous les contre-la-montre, mais Anquetil ne gagnait pas autant qu'on veut bien le dire, mais il gagnait tout ce qui était à part les championnats du monde.
Et Poupou gagnait plus que ce qu'on veut dire.
Et Poulidor gagnait plus que ce qu'on voulait dire, mais en fait il y avait une opposition de style, et donc Poupou rentrait facilement, on va dire, dans le cœur des familles, alors que Jacques Anquetil n'y rentrait pas. Mais Anquetil a servi la popularité de Poupou, comme Poupou, à la fin de carrière, a servi la popularité de Jacques Anquetil.
Virenque aussi a été un champion populaire, extrêmement populaire dans toute la France. Il était le champion que tout le monde, toute la France aimait. Les Français aimaient beaucoup plus Richard Virenque que Laurent Jalabert, par exemple, Christophe, à l'époque.
Ouais, complètement. Je pensais quelqu'un qui entrait dans le cœur des Français, qui était qui parlait simplement, qui avait ses expressions à lui, quelques petites fautes de français. Il était cash, il était brut de décoffrage, et je pense que chez le Français moyen, on doit se retrouver plus. Cette proximité, d'avoir voilà, ce partage, finalement, on dit, bah, c'est un grand champion, mais il parle comme nous, tout simplement. Et je crois que c'est ça qui fait la différence.
Et aujourd'hui, qui est le plus populaire des champions français pour vous? Thibaut Pinot ou Julien Alaphilippe? Parce que Julien a supplanté Thibaut aujourd'hui.
Je pense, mais ça doit se valoir quand même. Hein. C'est pas, après, ils ont ces deux coureurs aux caractéristiques assez différentes. Donc là, c'est pas, on a parlé de Poupou et d'Anquetil qui étaient un peu sur le même terrain. Là, ils sont pas complètement sur le même terrain. Ouais, dur à dire. Le lequel a le plus de popularité. J'ai l'impression que ça reste Julien, parce que c'est une rockstar aussi à côté du vélo, à l'inverse de Thibaut. Lui, Thibaut, il est vraiment dans sa ferme avec ses animaux, et dès qu'il sort du vélo, il veut plus du tout entendre parler de vélo, de médias, etc. Que Julien, c'est une rockstar. Il joue beaucoup avec
et puis,
ça,
et puis,
avec Marion, etc.
Il y a le palmarès, et puis il y a sa femme, voilà. Il y a son bébé aujourd'hui. Il médiatise un peu tout ça.
Le bébé, il a encore rien fait. Hein.
Oui, mais tout le monde connaît son prénom.
Il contribue à la popularité.
La France, son prénom.
Je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. Thibaut, il a une popularité, on va dire, dans la lignée de Poulidor.
La lignée d'Anctil, alors.
Ah, mais c'est pas le même personnage.
Pour moi, Julien, c'est un autre personnage. Je ne suis pas certain qu'on ait eu ce type de personnage par le passé. Il a quelque part inventé, enfin pas inventé parce qu'on ne l'invente pas, mais il a une personnalité, des comportements, bon, des qualités, bon, n'en parlons pas, et en plus cette explosivité. Et maintenant, en plus, il a commencé malheureusement à avoir quelques gros problèmes comme celui de cette année, qui va le faire rentrer dans la partie dramatique, cette partie dramatique où il n'avait pas encore été. Donc, en dehors de la perte de son maillot, de maillot jaune dans le Tour. Donc, je pense que Julien terminera vraisemblablement sa carrière, peut-être comme le plus populaire des coureurs français.
Mm-hmm. Toi qui es un garçon cartésien, et la popularité, évidemment, tu n'en fais pas état. Pour toi, quel est le coureur que tu préfères, Julien Alaphilippe ou Thibaut Pinot?
Oh ben moi qui suis quand même beaucoup plus pour celui qui gagne le plus de courses, c'est évident, c'est Julien.
Très bien, messieurs, vous aussi, Julien, pour toi
mon préféré entre les deux.
Ouais.
Non, alors j'aime bien les deux.
Allez, mouille-toi un petit peu.
Non, j'ai pas de.
Tu peux pas nous dire hors antenne que tu préfères Thibaut Pinot et puis maintenant
il devient normand.
C'est pas vrai. Après, je connais plus Julien que Thibaut. Thibaut, je le connais pas du tout. J'ai juste couru avec lui, mais je le connais pas du tout. En dehors du vélo, je connais plus Julien, mais j'ai pas de préféré entre les deux.
Julien te fait rire.
Ouais, Julien me fait rire. Julien, c'est quand même le seul mec que j'ai vu rentrer dans ma chambre en marchant sur les mains, quand même. Pour dire le personnage, quoi.
Christophe, lequel des deux?
Ouais, ton cœur, côté franchi. Plus rock'n'roll de Julien, plus pétillant. C'est vrai qu'il a cette capacité, pas cette timidité intérieure, un peu comme en Thibaut, d'être, comme tu l'as dit, dès qu'il est plus sur un vélo, il se referme sur lui-même. Il a besoin de ça, il fonctionne comme ça. Julien, il joue de la batterie, il marche sur les mains, il fait des roues arrière, c'est un rockstar. En plus, c'est un grand champion, quoi.
Ouais. Mais on n'a pas à juger.
C'est juste un sentiment personnel. Merci en tous les cas. 16h19. Un tout petit point sur la course. On approche désormais 28 km. Le top course avec toi, Pierre-Yves.
Oui. 28 km et on s'interroge. Est-ce que ça va tenir ou pas devant 2 minutes 47 d'avance pour les hommes de tête. Ils sont 7. Ils essayent de creuser parce que c'est compliqué derrière. Les coéquipiers de Tadej Pogacar mènent un train, pas d'enfer encore, mais en tout cas tout ce qu'il faut pour que tout à l'heure ils soient en mesure de venir croquer cette échappée où on trouve notamment le français Cyril Barthes. L'approche maintenant de la super planche des belles filles, c'est dans 21 km, le bas de cette super planche dans 21 km.
Messieurs, on va voir si dans un instant vous êtes fort en matière de surnoms. Mais oui, parce que j'ai une liste que m'a envoyée Arthur Barthélémy et on va voir si vous connaissez vos classiques. Cyril dans la catégorie des 1971-1980, Christophe dans la catégorie 91-2000 et notre cher Jérôme Coppel dans celle de 2000-2010. On va voir quel est le plus fort, on va vous donner 10 surnoms, vous devez les trouver, on verra qui a la meilleure note et vous aurez une bière gratuite ce soir à l'arrivée. 16h20, on revient dans un instant pour la suite de l'Intégral Tour, à tout de suite.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
16h26 sur RMC. Pas facile de rester sérieux avec cette bande d'énergumènes que j'ai dans le studio RMC, dans le petit camion. Il vaut mieux couper les micros, messieurs. 16h26, je vous le disais, on est à 23 km de l'arrivée de cette septième étape. Faire un petit tour à la moto, voir ce qui se passe à l'avant avec Arnaud Souk, qui est toujours en compagnie des hommes de tête qui ont 2 minutes 30 d'avance désormais, Arnaud.
Ouais, l'écart qui commence à se réduire un petit peu. On a tourné là, on a pris à gauche, virage à angle droit à Bélonchamp, direction Plancher les Mines, indiqué à 15 km. Ça veut dire que si on avait continué tout droit, on aurait pu aller du côté de Mélisée, la ville de Thibaut Pinot, mais ce ne sera pas le cas. Enfin, la ville, le village, on va remettre les choses à leur taille, dont le papa d'ailleurs, Régis, voilà, et première édile. Donc, bref, on n'ira pas à Mélisée, mais on prend la direction de Plancher les Mines gentiment avec une route qui se remet à se cabrer très très légèrement. Ça n'est rien évidemment à côté de ce que l'on aura tout à l'heure dans la planche des Belles-Filles. Il y a beaucoup beaucoup de monde sur le bord de la route depuis quelques kilomètres, signe forcément qu'on attend, on attend quand même l'enfant de la région. Il y a beaucoup de panneaux pour Thibaut Pinot sur le bord de la route. Marc Madiot l'avait signalé hier, c'est pas parce que c'est son étape, en tout cas que médiatiquement c'est son étape, que ça la sera forcément dans le peloton. On va pas lui offrir un bon de sortie, d'ailleurs on l'a vu aujourd'hui, mais bon, en tout cas les supporters sont là et c'est déjà ça pour Thibaut Pinot.
Merci Arnaud, et les supporters sont là, on verra si Thibaut est capable de tirer son épingle du jeu dans cette étape. Le peloton qui se rapproche tout doucement, 2 minutes 25, ça va être dur quand même pour l'échappée, Pierre-Yves.
Ouais, années, hein. Ça va être compliqué parce que le temps d'avance est de plus en plus limité pour cette échappée. 2 minutes 25, 22 km à parcourir et donc 15 km désormais du pied de cette super planche des Belles-Filles pour les hommes de tête. On va voir tout à l'heure, mais à mon avis, la bagarre va être entre les favoris.
Très bien. Avant la bagarre, je vous propose un petit jeu. On va voir quel est le meilleur des consultants. On va désigner le consultant d'or aujourd'hui.
Le super complet.
Le super consultant. Le super consultant des Belles-Filles. En compétition, évidemment, Cyril Guimard, qui va devoir trouver les surnoms des coureurs des années 60-70. Notre ami Jérôme Coppel qui devra trouver... Non, tu regardes pas ton téléphone, tu le poses. D'accord. Je croyais qu'il commençait à tricher comme Vincent Moscato.
Non,
Jérôme qui devra trouver les coureurs des années 2000-2010 et Christophe Moreau les années des coureurs des années 90-2000. Vous êtes prêts, messieurs? On va commencer par Cyril. Cyril, qui surnommait-on Major Thompson?
Major Thompson, c'était un sprinter noir américain?
Non.
Mais je ne sais pas.
C'était un coureur.
Barry Oban?
Non. Bon. Et non, c'était l'autre anglais. C'était Tom Simpson. Tom
Simpson. Ouais, même moi, je l'avais. On va changer les années.
Moi, donc, le seul surnom que je connais de Simpson, c'est Tommy.
Alors, 0 sur 1 pour Cyril. On passe aux années donc 90-2000 avec l'Express de Tashkent.
Abdou Japarov.
Bravo, bien joué Christophe. Djamolidine Abdou Japarov, évidemment le grandissime sprinter qui avait chuté, on s'en souvient tous, sur les Champs-Élysées, cette chute qui était entrée dans les esprits. Alors, pour les années 2001 à 2010, qui surnommait-on le Cobra?
Ricardo Rico.
Ricardo Rico, évidemment. Le Cobra.
Bon, c'est quand même des années où j'ai pas couru. Hein. Je suis passé prêt en 2008 quand même. Vous êtes
ah ouais, mais bon, j'ai pas 2010-2020 quoi.
Christophe, il joue pas lui.
Mais si, là, il a déjà trouvé Abdou Japarov, je te signale.
Il y a que toi qui a pas de points.
Il y a que toi qui a pas de points pour l'instant.
Cyril. Ouais.
Bon, allez, Cyril, nouvelle question pour toi. Qui surnommait-on le shérif?
Cuba.
T'es nul.
Cyril Guimard, non?
Alors, c'était un coureur italien.
Non, je sais pas.
Francesco Moser.
Ah voilà, je pouvais pas savoir.
Pourtant, c'était le grand rival.
C'est quelqu'un que t'as oublié.
De ton produit. Tu as préféré l'oublier.
Je l'ai jamais entendu. Hein.
Ah bon? Tu l'as jamais entendu?
Non, jamais.
Entendu. Ok. Mon cher Christophe, qui surnommait-on le dromadaire?
Aïe.
Ça, c'est une question chameau, ça.
Hein. On en a parlé ces derniers jours, mais tu n'étais pas là.
Ouais. Les coureurs.
À Bourguignon.
Non.
Ça aurait pu.
Il va être gentil.
C'était un coureur super simple.
Ah, Rominger.
Bravo. Voilà, avec le petit indice, il a réussi à trouver.
Ça fait un demi-point.
Ça fait un demi-point.
Un voilà. Demi, ok.
Si vous ne trouvez pas, je vous donne un petit indice. Et voilà, si vous trouvez avec l'indice, ça vous fait un demi-point.
La règle a déjà changé.
Ah, ben non, c'est moi qui fixe les règles. De toute façon, c'est moi le maître des horloges, le maître des jeux. Mon cher. Alors, je vais te trouver un coureur des années 2010-2020.
Non, mais c'est bon avant. Vas-y.
Qui surnomme-t-on? Ouais, mais là c'est trop facile, on les connaît tous. Le bison.
Adrien Petit.
Ah ouais. Non, c'est plus facile, on les connaît, on les entend. Donc pour l'instant en tête,
Jérôme avec deux points.
et Christophe 1,5.
Il faut savoir
Cyril,
que
Cyril 0, mais alors j'ai reçu un message de Buenos Aires parce que tu sais qu'on est, on nous écoute jusqu'au bout de la planète.
Un certain Georges Quirino, non?
Un certain Georges Quirino qui m'a dit qu'il faudrait, faudrait demander à Cyril Guimard qui était surnommé Bradley Wigging.
Cyril, tu vas la trouver celle-là. Qui surnommait-on la sucette?
La sucette.
Oui, bah oui. Bon, je sais pas, je te donne un deuxième indice avec un deuxième surnom. On l'appelait aussi le Hollandais de France.
Avec Zoutomel.
Voilà, donc un demi-point, c'est déjà pas mal. La sucette, t'avais jamais entendu parler?
Non, mais honnêtement, alors, pas plus que peut-être pas plus que Moser. Hein.
Ah ouais, 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 bah, écoute.
Il y avait moins de réseaux sociaux à l'époque.
Tu biseras pas Fanny, tu as un demi-point, c'est bien.
Très bien. Donc je l'ai dit tout à l'heure. Non, c'est trop facile pour Jérôme parce qu'on les connaît tous. Les... Alors qui surnomme-t-on?
Désolé d'être jeune.
Il est encore dans le peloton. Qui surnomme-t-on Rusty?
Rusty? Aucune idée.
Personne ne sait?
Non, donne un indice.
Un petit indice, il a bien marché hier. Il a bien failli remporter l'étape.
Guillermo?
Non, Michael Woods.
Ah ouais, Rusty Woods, j'en plus. Ouais, bien sûr.
Comme il dit, c'est facile.
Je l'avais pas.
Ok, Christophe?
Oui.
Tu l'as pas encore, je t'ai pas encore donné le tien. Donc des années 90 à 2000, qui surnomme-t-on l'ogre de Rostock? Ça c'est facile.
Oui, ça c'est facile.
Oui, d'ailleurs, on dit pas forcément l'ogre. Hein.
Ouais.
Non.
Ouais. On lui donne un nom d'animal aussi.
Oui.
Ça va revenir.
Ah, ça c'est la, ouais, c'est la seule
gorille là.
Le gorille, exactement.
C'est
le gorille.
Ah non, c'est un autre.
Ah.
Le gorille de Rostock, c'est Greipel.
Ah oui.
L'ogre de Rostock, c'est
ancien. Ludwig.
Non.
Olaf. Non.
Non. Non. Non. C'est a priori Jan Ulrich.
Ah oui.
Bien. Lui aussi de Rostock, en
oui, c'est vrai. On mène de l'Est.
Ok, donc on est à combien de points là? On va aller en 5 parce qu'autrement, je pense qu'on peut.
Oui, oui.
On Jérôme, peut aller jusqu'au bout de l'étape.
Jérôme est toujours devant, 2 points contre 1,5 à Christophe et 1,5 à Cyril.
Ok, Cyril.
Du côté de la course, hein, je vous rassure, c'est toujours stable, 2 minutes d'avance pour les échappées.
Cyril, là, tu ne peux pas ne pas trouver le gitan d'Eclos.
De Vlaming.
Roger De Vlaming, bravo, bien joué.
Attention, il revient.
Il revient à la
sprinter, hein, donc attention.
Qui surnommait-on le géant de Navarre, monsieur Moreau?
Indurain.
Voilà, Miguel Indurain, là c'est des trucs faciles. Et pour Jérôme, qui surnommait-on le Kenyan blanc?
Un Froome.
Voilà. Ouais. Là voilà, c'était 3 cadeaux, hein, un pour chacun. On a des, donc dernière question. Qui est en tête pour l'instant?
Toujours Jérôme, 3 points contre 2,5 à Christophe et 1,5 à Cyril.
Voilà, donc si Jérôme trouve la bonne réponse, c'est gagné pour lui. Mon cher Cyril, tu vas nous trouver le nom surtout du surnommé Nanar.
Thévenet.
Bernard Thévenet, très bien. Christophe Moreau va nous trouver le surnom du lion de Gistel.
Museu.
Yes, Johan Museu, qui avait aussi un autre surnom, le lion des Flandres. Et donc, on va voir avec Jérôme. Bon,
le lion des Flandres, c'est Magny.
C'est la victoire ou la deuxième place pour Jérôme?
Le lion des Flandres, c'était pas Magny?
C'était quoi?
Magny, l'italien.
Non, pour l'instant, moi j'avais ça. Qui surnomme-t-on le faucon? Surnommait-on le faucon?
Le vrai, tu le connais, mais le faucon.
Ça vaut le délit.
Bien joué, bravo. Bravo, victoire de Jérôme Coppen, sans appel, avec un demi-point d'avance. Bon, vous avez été pas mal quand même, On remercie Arthur qui nous a donné l'idée de ce petit jeu. 16h35, Arnaud, tu les avais tous, les surnoms des coureurs, là?
Non.
Non?
Non, honnêtement, j'avais Abdou Japarov, mais Jérôme, bravo. Alors là?
Ah non, impressionnant, hein. Il est costaud. Arnaud, pendant que nous on joue, toi tu travailles et tu regardes ce qui se passe sur la course.
Oui. Non, je vous écoutais en vrai. Je vous écoutais, je me rends compte que ça fait 5 minutes que je regarde absolument pas ce qui se passe, que j'essaie de répondre aux questions. Donc voilà, je suis toujours derrière les échappés, je vous le disais, la route qui se cabrait un petit peu et on nous annonce 1,45 d'écart donc en faveur des échappés sur le peloton. 1,45, cela veut dire que cela se réduit quand même très très fortement. On en est à 158 km le pied de la planche qui est donc dans 11 km désormais, donc 11 km pour essayer de maintenir un écart le plus grand possible pour les échapper. On se souvient hein, que Max Sherman et Lennart Kamna, je me faisais la réflexion, avaient mené à bien ou quasiment à bien une échappée sur le Tour de France en 2020 au Puy-Marie. Bon, il s'était fait damer le pion par Martinez à l'arrivée au Puy-Marie, mais les deux en tout cas étaient allés quasiment au bout, donc les échappées gagnantes ils connaissent, mais aujourd'hui c'est vrai qu'avec une 45 d'avance désormais sur le peloton, ça commence quand même à se réduire sensiblement.
Merci Arnaud. Pierre-Yves, un petit top course à 16 km 500 de l'arrivée. Donc on s'approche à grands pas maintenant du pied de la planche des belles filles.
Oui, et à l'avant du peloton, on voit de nouvelles équipes. La Groupama FDJ, Movistar, la Cofidis aux côtés de l'équipe UAE de Pogacar. Et évidemment, la Jumbo toujours présente pour essayer de perturber les plans du Slovène. 1 minute 50 d'avance pour les hommes de tête. Ils sont 7 à 16 km de l'arrivée, donc à 9 km désormais du pied de la planche. On rappelle que Cyril Barthes est dans ce groupe, Luke Durbridge, il y a également Dylan Teuns, Simon Geschke, Lennart Kamna et Maximilian Charman.
Ok, 1:40.
RMC
Intégral Tour.
Oui, je l'ai encore pris dans les dents celui-là. 1:50 d'avance, c'est râpé, hein, quasiment râpé pour les hommes de tête, Jérôme.
Oui, c'est râpé. En 2019, quand Dylan Teuns gagne à la super planche, ils avaient 4 minutes d'avance au pied et ça s'était fortement rapproché. Donc là, ça me paraît quand même un petit peu compliqué pour les échapper.
On va donc assister à la bagarre des cadors du peloton avec évidemment en tête de ce petit groupe un certain Tadej Pogacar, porteur du maillot jaune, déjà vainqueur hier et qui pourrait assommer le tour d'ici une petite demi-heure. On revient dans un instant pour la suite et la fin de cette 7e étape du Tour de France. A tout de suite.
RMC Intégral Tour.